RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et on continue dans cette seconde partie de Je pense, donc j'agis, de parler du protestantisme, des protestants, à l'occasion de ce 10e synode national de l'Église protestante unie de France qui commencera jeudi à Mazamet dans le Tarn. Bah tiens, justement, Mazamet, une ville, un haut lieu peut-être du protestantisme, ça va être l'occasion jusqu'à 11h de s'intéresser plus généralement au patrimoine protestant en France. On va en discuter avec nos invités et puis bien sûr avec vous, hein, vous êtes toujours les bienvenus pour participer à l'émission. Si vous êtes protestant, venez nous présenter peut-être le patrimoine qui vous touche. C'est un temple, un bâtiment, un musée. Venez nous les présenter en mode carte postale. Et puis pour les autres, bien sûr, on attend toutes vos idées, vos propositions et puis tout ce que vous avez pu repérer en France lié au patrimoine protestant. On vous accueille toujours au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vos messages également par mail direct@rcf.fr et je vous invite grandement également à rejoindre le groupe Facebook Je pense donc j'agis, où vous pouvez poster tous vos messages et même des photos. Justement, on parle de patrimoine, laissez vos photos pour illustrer vos propos dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Avec nos chroniqueurs qui chaque jour viennent prendre la parole pour nous parler de moyens d'agir, c'est ce que fera Saba Ramani de Kaizen Magazine, qui s'intéressera aux vertus de l'hypnose. Ce sera à 10h20. Mais tout de suite, pour discuter avec nous jusqu'à 11h du patrimoine protestant, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Alors, dans un instant, nous rejoindra Édouard Delamaze, c'est le président de l'Observatoire du patrimoine religieux. Mais Tristan Dalbis nous a rejoint. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être...
Merci.
Merci à vous surtout. C'est à moi de vous remercier de participer à cette émission. Vous êtes membre du comité du musée protestant. Alors c'est un musée qui est peut-être un peu particulier, Tristan, puisque c'est un musée totalement virtuel.
C'est le résultat d'une déception. Il y a une vingtaine d'années, à la suite de promesses officielles, on a voulu créer un musée protestant à l'image de ce modèle qui est le musée d'art et d'histoire juif. Et puis les promesses n'ont pas été tenues. Alors, vers 2003, on a décidé de faire à minima et de faire un musée virtuel.
Ouais.
Il a été ensuite modifié et l'actuel a été fait en 2014.
Donc un musée virtuel, où on peut pas alors on peut se rendre, mais sur internet, sur museeprotestant.org, mais il y a pas forcément de lieu. Par contre, j'ai l'impression, alors sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment une bible du patrimoine protestant.
C'est une bible du oui, parce qu'il a un certain nombre de thèmes. Bien sûr, sur l'histoire du protestantisme, sur les grandes dates, etc. Mais il y a toute une partie qui est consacrée au patrimoine et à l'art protestant. Alors, le patrimoine protestant, inutile de vous dire, c'est presque contradictoire dans les termes. C'est un patrimoine particulièrement austère. C'est essentiellement des temples.
Et comment peut-on l'expliquer, ça, justement? Parce que autant le patrimoine catholique, on le connaît, en tout cas, on peut le mettre en avant facilement. Il y a beaucoup d'exemples en France. Pourquoi le patrimoine protestant, c'est différent?
Ça remonte à Calvin. Calvin qui a été le plus formel dans son opposition au catholicisme, et en disant que toute décoration, toute fioriture était absolument bannie. Les luthériens, eux, sont beaucoup plus proches de la tradition catholique et ont des églises, parce qu'on dit un temple chez les calvinistes et une église chez les luthériens, qui sont décorées presque comme les églises catholiques.
Oui. C'est propre aussi au synode. On en parlait dans la première partie de l'émission. Le synode qui va être organisé à partir de jeudi par l'Église protestante unie de France, où il a été pointé du doigt cette volonté de pas trop se mettre en avant non plus.
Non, il y a une tradition de discrétion et d'austérité.
Qu'est-ce que c'est?
Et qui remonte à plusieurs siècles, je veux dire. On ne s'en débarrasse pas comme ça.
Et dans ce musée protestant, alors sur le site internet, vous mettez en avant beaucoup de choses. Il y a à la fois des parcours d'exposition, et également comment vous, lors de la création du site internet, vous avez essayé de séparer un peu les choses justement.
Ça s'est fait très progressivement. On n'avait pas d'expérience au début et on a divisé un certain nombre de thèmes. Je vous ai dit l'histoire, les grandes dates et surtout la partie patrimoine.
Oui, la partie patrimoine qui est donc austère, vous l'avez dit.
Qu'est-ce que c'est que le patrimoine protestant? Ce sont les temples. Qui reflète très exactement l'histoire du protestantisme. Chaque type de temple correspond à une période. Et les cimetières protestants, qui sont également d'une grande austérité, et les très rares monuments protestants commémoratifs ou militaires.
Et est-ce qu'on a quelques données, quelques chiffres un peu sur le nombre de temples en France, le nombre d'églises protestantes?
C'est très difficile parce qu'il y a plusieurs catégories d'églises. Mais disons que pour s'en tenir aux luthériens et aux calvinistes, qui sont les seuls à avoir des monuments intéressants sur le plan historique et architectural, on compte à peu près 700 temples pour 700 000 protestants.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour nous parler du patrimoine protestant. Voilà, si vous êtes protestant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche, un bâtiment, un musée ou même un temple, une église que vous aimeriez nous présenter ce matin? On vous attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Bah tiens, et vous justement, Tristan Delbis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche particulièrement dans le patrimoine protestant en France?
Justement, je vous dis, il est un reflet de l'âme protestante et de l'histoire. Et de ce point de vue, chaque temple a une histoire et correspond à une période. Bon, il y a deux grandes périodes, bien sûr. Celle qui va du début du protestantisme à la révocation de Nantes jusqu'à la Révolution et aux articles organiques de Bonaparte de 1802. Et puis une deuxième période qui commence à ce moment-là. Et alors, de la première période, il ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire que l'édit de Fontainebleau, la révocation de l'édit de Nantes, qui prévoyait la destruction de tous les temples, a été appliquée à la lettre. Ouais. Alors, il y a quelques exceptions. À la lettre, ça veut dire qu'il en reste une quinzaine à peu près, qui ont survécu parce que soit ils ont été transformés en église, soit ils ont été n'importe quoi. Enfin, il y en a un qui était transformé en ferme, un autre comme pour retenir la dîme. En fait, ça a servi à des tas de choses. Ça, c'est la première exception, si vous voulez. La deuxième, ce sont les chapelles de châteaux. C'est-à-dire que les chapelles de château ont été considérées comme privées, appartenant au seigneur, et comme telles, elles ont survécu. La plus connue est Chamerolles, près d'Orléans, Sansal, Flex, ou La Force. Le plus souvent, quand même, le seigneur a dû le transformer rapidement en chapelle catholique s'il a voulu garder sa chapelle. Ouais. Alors, ça, c'est une deuxième catégorie qui a survécu. Chamerolles est un exemple rarissime de ce qu'était un temple au XVIe siècle. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là.
Chamerolles, pardon, je me permets de vous couper, Chamerolles, ça a été restauré comme à l'époque?
Oui, il a été restauré. On a découvert sous les enduits des textes bibliques, ce qui était la seule décoration qui était autorisée à l'époque. Alors, il y a une troisième catégorie qui a échappé, ce sont les maisons d'oraison. Il était interdit de construire des temples, mais les petits malins, au XVIIIe siècle, au moment où ça s'est un peu atténué, la répression, ont fait des maisons.
Oui.
Et ça, c'est pas un temple, c'est une maison. Et l'intendant, soit n'a pas fait attention, soit a fermé les yeux. Et c'est surtout dans la région des Charentes qu'on a trouvé cette... Et il y en a encore une maison qui sert de temple.
Voilà. Donc c'était un lieu pour se recueillir, un lieu pour prier, comme une maison. Voilà.
C'est comme une... Voilà, surtout pas de fioritures et ça avait l'air d'une maison quelconque.
Surtout pas de fioritures, c'est ce qu'on retient.
Voilà. Et puis, il y a une dernière exception, c'est les régions où l'édit de Fontainebleau ne s'est pas appliqué. Ouais. C'est l'Alsace, les traités de Westphalie spécifient que l'édit de Fontainebleau ne s'appliquera pas au temple alsacien. C'est la Franche-Comté, qui a été rajoutée en 1791, donc tout ça a été fini. Et puis il y a la principauté d'Orange qui appartenait à la famille d'Orange-Nassau. Donc il y a trois exceptions régionales où les temples n'ont pas été détruits. Ouais. Et ils sont beaucoup plus nombreux.
Donc il y a eu quand même des vraies difficultés, on l'entend, et par l'histoire, hein, bien sûr, des temples qui ont été un peu détruits.
Ils ont été presque tous détruits, à part les exceptions que j'ai dit.
Ouais. Mais par contre, toujours dans cette forme de... pas neutralité, mais sans trop se montrer, sans fioriture, pour les temples, hein, j'entends.
Oui. Ah oui, non, ça c'est... et si on passe à la deuxième période, c'est-à-dire à partir de la Révolution, de l'édit de tolérance de 1787, à ce moment-là, ils reconstruisent. Et... il y a plusieurs cas. Il y a deux cas. Soit ils reconstruisent et ils refont un temple très simple. Napoléon leur offre des églises. Et il y a, je crois, 130 églises qui ont été offertes par Napoléon. Il y a même une légende qui prétend que Napoléon aurait offert la Madeleine et que les protestants auraient dit « va des rétro Satanas, c'est pas du tout pour nous ce genre de choses ».
C'est trop grand.
C'est trop grand, c'est trop beau.
C'est une légende ou quand même il y a quelques écrits
Aucune idée.
Aucune idée.
C'est une légende qui court et que je trouve jolie. Donc, il y a... Alors là... ils recevaient des églises et on les vidait de leur décoration, bien entendu, et on ne gardait que la table d'autel quelquefois pour servir de table de communion, et puis c'est tout. Les constructions, il y a trois styles qui vont se succéder. Le premier, c'est le style néoclassique, sur le modèle de avec des colonnades, etc. Ouais. C'est le modèle des églises du XVIIIe, quoi. C'est pour deux raisons. C'est d'abord que les subventions, le responsable des beaux-arts qui donnait les subventions adorait les colonnades. Et donc, s'il fallait lui donner,
il fallait des colonnes.
Alors, on en a mis partout. Le temple des Chartrons à Bordeaux, le temple de Saumur. Ce sont des temples à colonnades. Et il y a une deuxième raison. C'est que comme c'était le style officiel, c'est-à-dire celui des mairies, des tribunaux, etc., les protestants qui voulaient s'assimiler ont fait exprès de prendre le style officiel. Ça veut dire qu'ils étaient reconnus et appréciés. Ça, c'est la première période. Ça va jusqu'à 1830-40. À ce moment-là, arrive un deuxième style qui est le style, comment dirais-je, néo-moyenâgeux.
C'est-à-dire retour en arrière, quoi.
Néo-gothique ou néo-roman. Les églises catholiques parce que ça a frappé tout le monde, cette mode, ont plutôt préféré le néo-gothique et les protestants plutôt le néo-roman. J'ai jamais su pourquoi.
Il y a encore des églises romanes, figurez-vous, enfin catholiques, hein, bien sûr, en France.
Il y en a qui ont piqué dans les deux, mais enfin, en gros, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, l'église de l'Étoile, le temple de l'Étoile plutôt, est néo-gothique.
Et il est où le temple de l'Étoile ?
C'est avenue de la Grande Armée.
À Paris.
Oui, à Paris. Et on trouve surtout des temples néo-gothiques comme ça en Alsace, sous l'influence allemande. C'est ce style qui va
émerger un peu dans le territoire. Mais comment on peut expliquer, Tristan Dalbis, que ces modes finalement qui évoluent énormément dans l'architecture, hein, dans le patrimoine protestant? Est-ce que c'est pour imiter les autres? Est-ce que c'est pour imiter les catholiques qui choisissent le gothique flamboyant, le néo-gothique comme vous l'avez dit, ou néo-roman? Ou alors c'est parce que c'est la mode et puis c'est comme ça, on respecte la mode.
C'est la mode. À l'époque, je vous rappelle qu'on découvre le médiéval et la beauté de l'art gothique et roman. Et donc, c'est une mode qui va partout. La troisième catégorie est beaucoup moins intéressante. C'est tout ce qui est fait au XXe siècle. Ouais. On construit beaucoup moins de temples et très peu ont vraiment un intérêt architectural. Ouais. Il y en a, mais enfin...
C'est moderne.
Alors, plus récemment, dans la période très récente, par exemple, la chapelle des Diaconesses à Versailles ont été faits par des architectes qui ont soigné la forme, mais ce sont plutôt des minorités. Ouais. Et puis, surtout, les églises les temples se transforment en centres communautaires. Oui. C'est-à-dire qu'on rajoute un presbytère, une salle d'études, etc. C'est plus un centre que seulement un lieu de prière.
Ouais, on en fait un haut lieu du protestantisme, alors. Ouais.
Exactement, ouais. Oui, c'est ça. Voilà,
On a notre deuxième invité qui nous a rejoint avec quelques minutes de retard, mais on est heureux de l'accueillir. Édouard Delamaze, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes le président de l'Observatoire du patrimoine religieux. Alors là aussi, c'est un site internet, hein, exactement comme le musée protestant qu'on vous présente depuis le début de l'émission. Quel est l'objectif de cet observatoire ? Est-ce que c'est de faire des analyses ou plutôt de référencer du patrimoine religieux ?
Oui, c'est ça. C'est vraiment un observatoire dans le sens que nous recensons ce patrimoine religieux, toutes religions confondues, sans l'aspect cultuel. Hein. Donc nous sommes sur l'aspect culturel, proprement dit architectural, c'est-à-dire que tout lieu qui a été ou qui est ouvert au culte, mais qui a été construit dans un esprit de religion.
Oui.
Principalement les grandes religions, les quatre grandes religions, avec bien sûr une priorité sur le catholicisme, du fait même de l'importance en France de ce courant.
Et de son patrimoine.
Et de son patrimoine,
bien sûr. Et sur le patrimoine protestant, est-ce que vous observez, hein, puisque c'est un observateur, est-ce que vous référencez des choses ? Qu'est-ce qu'on peut constater en France sur ce patrimoine ?
Comme le vient de dire monsieur le responsable des musées, c'est compliqué et à la fois facile à déterminer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a à peu près 2100 temples en France, qui sont des temples de différentes importances. Vous en avez 15% qui sont classés monuments historiques. Alors c'est rien par rapport aux 45 000 églises ouvertes au culte. Donc, on parle de 2100 et quelques temples. Maintenant, la différence, c'est que les temples, contrairement aux églises, elles ne sont pas consacrées. Donc, au fond, c'est assez difficile de les recenser, parce qu'il y a des lieux qui servent ou qui ont servi au protestantisme en lui-même, mais à des cérémonies, mais puis ça n'a pas le même caractère que l'église consacrée. Oui. Alors, mais je pense que le chiffre de 2116 exactement doit être juste. Alors maintenant, dans quel état il est, hein, c'est un peu la question que vous posez, c'est en tout cas c'est le rôle que nous cherchons avoir un observatoire, il est dans le même état que les édifices des autres religions.
Ah oui.
Lieu d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que on peut considérer qu'il y a environ 10% de ces bâtiments qui sont en état de péril. Tout comme dans la religion catholique. Alors évidemment, la religion catholique, ça fait beaucoup plus, parce que nous sommes à 45 000, 50 000, donc ça fait 5 000 édifices en état de souffrance. Nous en avons effectivement 200 temples en France qui sont en état de péril ou en état de grande souffrance.
Oui. Et, voilà. Et on va continuer d'en parler jusqu'à 11h ce matin dans Je pense. Donc j'agis, je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour participer à l'émission et pour nous présenter le patrimoine protestant que vous connaissez. On vous attend au 04 72 38 20 23. C'est Catherine qui attend vos appels. 04 72 38 20 23. En attendant, on va parler de l'hypnose avec notre invitée, notre chroniqueuse, pardon. Enfin, c'est presque une invitée aussi. Bonjour Sabah Ramani.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous travaillez pour Kaizen Magazine et donc vous vouliez nous parler des vertus de l'hypnose.
Oui, parce qu'il est toujours bon de déconstruire les préjugés, hein. Donc pendant longtemps, l'hypnose a été reléguée à une forme de charlatanisme, de manipulation mentale ou encore de spectacle. Or, l'hypnose a fait depuis plusieurs années l'objet de nombreuses études scientifiques. Dans le domaine de la santé particulièrement, elle est aujourd'hui utilisée pour diminuer les douleurs, soigner les traumatismes psychologiques, les migraines, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil, les effets secondaires de traitements lourds. Elle peut aussi aider à l'accouchement, soulager les enfants malades ou encore aider les personnes à arrêter de fumer. Elle est aussi utilisée comme anesthésie pour des soins dentaires et même des opérations chirurgicales. Donc toutes ces vertus font que de plus en plus d'hôpitaux français utilisent l'hypnose en complément de traitement. Et même en 2013, l'Académie nationale de médecine l'a reconnue comme thérapie complémentaire et la création de diplômes universitaires a marqué sa reconnaissance dans le milieu scientifique. Donc, car l'hypnose médicale est une technique qui s'apprend.
Et alors, comment l'hypnose agit-elle sur l'individu, Sabah ?
En fait, l'hypnose n'est ni un état de sommeil, ni un état de veille. C'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié. La science a prouvé qu'elle n'était pas un phénomène paranormal, mais bien un phénomène physiologique et neurologique particulier. Les travaux de neuroimagerie et d'IRM montrent en effet qu'elle agit sur le système nerveux, notamment dans le cerveau et aussi sur le débit sanguin, pour diminuer ou pour supprimer la douleur notamment. Même si physiologiquement, on ne sait toujours pas exactement comment l'expliquer, une chose est sûre, c'est par le pouvoir de la suggestion et des mots que l'hypnose agit. En fait, l'hypnose est induite à partir de phrases, de métaphores, d'attention et de visualisation pour faire appel à l'imaginaire du patient. La zone cérébrale est alors activée pour influencer la perception du patient. Et chaque année, des milliers d'anesthésies sous hypnose sont pratiquées dans des hôpitaux en Occident.
Mais alors, est-ce que c'est risqué ?
Non, pas du tout, car l'anesthésiste est toujours aux côtés du patient qui est conscient. Il surveille son confort et si besoin, agit avec d'autres techniques, ce qu'on appelle l'hypnosédation, associe en réalité l'hypnose, une légère sédation médicamenteuse et une anesthésie locale. Elle évite donc l'anesthésie générale et le patient est moins angoissé, récupère plus vite. Les médecins observent aussi moins de saignements au bloc et en post-opératoire et moins d'effets secondaires. Et ça marche surtout sur les enfants et aussi 80% des patients des adultes qui sont hypnotisables, même si certains profils ont plus de difficultés à lâcher prise. C'est une technique douce, donc l'hypnose représente en réalité peu de contre-indications, excepté pour certaines pathologies psychiatriques. Et si la force des suggestions est une technique plus ou moins maîtrisée par l'hypnotiseur, l'action dans le subconscient dépend davantage de la réceptivité de la personne hypnotisée. Car plus nous gardons le contrôle de notre volonté, moins nous avons confiance dans l'hypnotiseur, moins il y a de chances d'être facilement hypnotisé. L'hypnose n'est donc pas un jeu, mais vraiment une ouverture des perceptions qui nécessite une confiance entre le patient et les thérapeutes. Pour autant, il est aussi possible de pratiquer l'auto-hypnose soi-même. Cela s'apprend pour des troubles mineurs, comme apaiser des angoisses ou retrouver une meilleure qualité de sommeil.
Eh bien, merci beaucoup, Sabah Ramani, pour toutes ces informations à propos de l'hypnose. Et sachez que vous pouvez retrouver de nombreux articles sur l'hypnose, sur les médecines douces, dans les hors-séries santé du magazine Kaizen, à retrouver sur kaizen-magazine.com. Merci beaucoup, Sabah. Voilà cette petite parenthèse sur l'hypnose. On va pouvoir continuer sans transition, bien sûr, de parler du patrimoine protestant en France avec nos deux invités dans cette émission. Tristan Dalby, je rappelle que vous êtes membre du comité du musée protestant. C'est un musée virtuel, hein, on reprécise. Et puis Édouard Delamaze, vous êtes président de l'Observatoire du patrimoine religieux. Christiane nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Christiane.
Bonjour Melchior. Moi, je voulais témoigner d'une particularité, c'est le temple d'Aix-en-Provence, qui est une ancienne synagogue que les Juifs ont donnée aux protestants après la guerre pour avoir sauvé des Juifs qui auraient dû être déportés. Et je trouve que c'est très beau et c'est encore écrit, enfin moi je connais pas les preuves, mais ça s'est écrit comme quoi ça a été donné après la guerre.
Voilà. Ouais, et vous avez déjà visité ce temple?
Ah oui, mais ma fille n'est pas loin, elle fait partie du conseil prédicatoral et tout ça, et mes petits-enfants, et moi je suis grand-mère, hein, mes petits-enfants étaient baptisés là-bas, et chaque fois que j'ai l'occasion d'y aller et que je vais les voir, j'y vais, bien sûr. Voilà. Non, moi je suis de la paroisse Vienne, je ne sais pas si vous connaissez, Vienne en Isère, Romans, Tournon, Annonay, enfin cette paroisse-là. Ouais. Voilà.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Christiane d'être venue à l'antenne pour nous parler de ce temple protestant d'Aix-en-Provence. Vous connaissez Tristan Dalby?
Pas du tout.
Pas
non,
du tout.
Je le vois pas, mais
c'est une particularité.
Même une tradition. Les deux minorités juives et protestantes se tiennent traditionnellement les coudes en tant que minorité.
Voilà. Mais là,
c'est un très beau geste que j'ignorais.
C'est un geste qui existe dans d'autres cas ou Tristan, vous avez d'autres exemples peut-être?
Ah oui, il y a eu beaucoup de cas de passage du protestantisme au catholicisme et puis revenu à l'Église protestante. Il y a ce qu'on appelle aussi en Alsace le simultanéum, c'est-à-dire lorsque il y avait, je crois, plus de 6 catholiques dans une paroisse protestante, le roi imposait qu'on partage l'église. Et il y a donc des églises qui servent pour les deux religions, traditionnellement, ce qui est une assez jolie tradition. Même si dans le temps, il y a eu quelquefois un peu de tirage entre les deux. Mais soit on coupait l'église en deux avec un mur, soit elle servait le matin aux protestants et le soir aux catholiques.
J'aimerais revenir sur ce que disait Édouard Delamaze tout à l'heure à propos des temples. Alors, je me trompe peut-être, mais qui ne sont pas consacrés.
Non, ça c'est la grande différence.
Ah oui, voilà.
C'est la grande différence. Le Seigneur a dit partout où vous serez réunis en mon nom, je serai présent. Il a bien dit partout.
Partout.
Oui, donc il n'a pas dit qu'il fallait consacrer l'endroit immédiatement. Et du temps des persécutions au désert, les assemblées avaient lieu dans la campagne.
Ça veut dire, si on grossit un petit peu le trait, mais que on peut organiser un culte peut avoir lieu n'importe où.
Absolument.
N'importe où. Qu'est-ce qu'il faut alors? Quel est le minimum quand même à avoir pour un culte? Parce que ça nous permet aussi de découvrir ce matin.
Il faut une assemblée et un pasteur et même pas forcément.
Ouais, d'accord.
Dès que les gens sont réunis, je vous rappelle que chez les protestants, la tradition était au culte familial tous les soirs, dirigé par le chef de famille. Donc il y avait dans toutes les maisons un culte tous les jours, ce qui vous donne bien le... Je voudrais revenir sur un point de Monsieur Delamaze.
Oui, bien sûr.
Parce que son chiffre m'a étonné en disant que la proportion de temples et d'églises en mauvais état était la même. Parce que il y a une grosse différence entre les deux. C'est que au moment de la séparation de l'église et de l'état, en 1905, on a décidé que le bâtiment, le temple ou l'église, serait attribué à une association cultuelle. Évidemment, personne jusqu'à présent ne s'était posé la question de à qui appartenait la cathédrale. Oui. À la demande du pape qui a vu une remise en cause de son autorité, les catholiques ont refusé. Et donc, une grande majorité des églises ont été attribuées aux communes. Alors que les protestants qui avaient eu un grand nombre de problèmes se sont dit « nous on prend » et c'est l'association cultuelle qui est propriétaire du temple. Alors ça a quand même fait une grande différence dans les moyens de financement. Mmh. Et un certain nombre de communautés protestantes ont eu beaucoup de mal pour entretenir leur bâtiment.
Oui. Édouard Delamas, c'est intéressant ce que nous raconte Tristan d'Albi.
Tout à fait d'accord, hein. On est bien d'accord sur l'histoire effectivement de ces religions. La situation de 1905 et 1907, plus exactement cette date à laquelle la décision a été prise pour l'Église catholique de rejeter effectivement la proposition qui avait été faite sur instruction du pape, et donc de trouver deux situations juridiques différentes entre les églises catholiques et ceux qui sont protestants. Mais je reviens sur deux choses. Au titre de l'état des bâtiments, malheureusement, on constate que la situation en vérité n'a pas en proportion, évidemment, toutes les proportions sont compliquées à comparer parce que vous êtes sur, comme je disais, 50 000 édifices contre 2113 exactement. C'est pas 112, c'est 113.
Oui. Absolument.
Bon, c'est quand même assez, c'est une grande différence. Vous en avez là-dessus 10% d'églises, mais vous en avez 127 temples protestants protégés au titre des monuments historiques. Donc là, vous avez une protection qui est avec l'appui de l'État quand même et des DRAC. Donc on peut considérer qu'il y a une certaine protection. Il y a encore 12% des temples qui appartiennent aux communes. Il ne faut pas les oublier. Donc c'est ça, l'Observatoire du patrimoine religieux recense édifice par édifice et par religion l'ensemble de ces éléments. Donc ce que je disais au terme de proportion, c'est à peu près la vérité. Évidemment, oui. Ce n'est pas les mêmes proportions, hein, mais c'est les mêmes pourcentages. Donc il faut là-dessus, je crois, être bien conscient que ces édifices sont en mauvais état. En 2021, par exemple, il y a 12 temples en très mauvais état qui ont commencé leurs travaux. On parle de 12 temples en très mauvais état à Beauvoisin, dans le Gard, à Saint-Julien en Alban, dans l'Ardèche. Vous voyez donc, il y a énormément de problèmes qui se posent pour le maintien et l'état de ces édifices. Également, comme pour les églises, les temples connaissent des transformations. En 2022, par exemple, un temple a été transformé en cantine dans l'Aisne. Il y a 4 temples transformés près de Montpellier. Vous voyez, donc il y a le même phénomène de devenir de cet édifice,
oui.
Dans des proportions bien sûr différentes. Un petit mot peut-être pour votre auditrice.
Oui, Christiane, qui nous parlait de ce temple d'Aix-en-Provence.
Oui, voilà. Un petit mot pour cet édifice, pour votre auditrice, qui parlait effectivement des cas. Enfin, c'était plutôt notre collègue qui parlait de la transformation et de la présence de la transformation. Prédominance de deux religions sur les mêmes lieux. Hein. C'est le Cimetium dont faisait état monsieur le représentant, le directeur, le président du musée. En vérité, c'est effectivement sous Louis XIV qu'a été prise la décision de donner principalement en Alsace et dans le comté de Montbéliard cette possibilité de ces doubles cultes. Il y a actuellement en Alsace 50 localités qui possède un simultanéum. C'est énorme. 50 localités. Donc c'est une réalité. Alors je ne connaissais pas la situation vis-à-vis de la religion juive, mais je vais regarder.
Vous allez pouvoir observer encore plus, là.
Je vais l'observer. On va le suivre, parce qu'en plus, c'est symbolique. Hein. Mais la démarche ne me choque pas, bien au contraire, comme directeur du musée. Ça, c'est pas choquant, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'histoire de notre pays, et ça depuis Louis XIV, en tout cas pour deux grandes régions, l'Alsace et la région de Montbéliard.
Tristan d'Albi, une réaction sur ce que nous dit Édouard Delamas, qui est très précis. Hein.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, effectivement. Mais je sais que c'est un problème pour les paroisses protestantes d'entretenir des monuments lorsqu'ils sont coûteux, qui sont généralement coûteux.
On va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. Vous faites comme Christiane tout à l'heure qui est venue nous présenter ce temple d'Aix-en-Provence. Il y a d'autres lieux du protestantisme que vous aimez, que vous appréciez, qui vous touche. N'hésitez pas aussi à venir à l'antenne. Il est 10h35 sur RCF. On va écouter de la musique tout de suite. Alors toujours pas n'importe qui puisqu'on va écouter le pasteur Matt Marvan, qui est un chanteur protestant qui est très connu en France, et on va écouter un extrait de son album Résistance avec toi, et vous en profitez pour nous appeler au 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Découragé, un genou à terre, quand frappe la peur, à ne plus savoir que faire, tu es toujours là, toujours là. Dans le deuil, dans la maladie, quand vient la douleur et que l'effroi surgit, tu es toujours là, toujours là. Avec toi, tout reste possible. Accablé par ces pensées obscures qui font rejaillir ces profondes blessures, tu es toujours là, toujours là. Dans l'épreuve, dans la tentation, prêt à tout céder, voire perdre la raison, tu es toujours là.
Voilà, avec toi, Matt Marvan sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h pour parler du patrimoine protestant. Édouard Delamaze, vous êtes le président de l'Observatoire du patrimoine religieux, et Tristan Dalby, membre du comité du musée protestant. C'est un musée virtuel à retrouver sur le site internet musée-protestant.org. Voilà, j'y étais presque. Françoise nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour à tous. Je voulais parler de nos hauts lieux protestants dans les Cévennes, le musée du désert que j'ai visité à Saint-Jean-du-Gard. Et j'étais vraiment touchée, bouleversée aussi par ce témoignage, je dirais, de martyrs, entre guillemets, protestants, qui ont tant souffert. Je l'ai vu de mes yeux. Il y avait des doubles placards où ils se cachaient avec une trappe. Quand venaient les dragonnades du roi. Et il y avait aussi beaucoup de Bibles. C'était vraiment c'était resté dans son jus. C'était un peu sombre, mais il y avait des vieux meubles. Enfin, tout était en harmonie. Et beaucoup de Bibles, et surtout des Bibles manuscrites, enfin, très, très anciennes. Et je me suis dit, en sortant, il y a des saints aussi protestants et des martyrs. Enfin, je l'ai touché du doigt. Enfin, je l'ai touché des yeux.
Des yeux, oui. Et permettez-moi de vous poser cette question, Françoise. Vous êtes protestante, vous ?
Non, catholique.
Oui, mais c'était important de découvrir un peu, de retracer l'histoire du protestantisme dans ce musée ?
Ah oui, oui, oui. Mais j'habite au sud d'Aveyron, c'est très proche du Vigan, des Cévennes. Alors j'ai été un peu bercée dans cette histoire des Camisards, des Cévennes, et je suis très proche des protestants.
Eh bien, écoutez, merci Françoise hein, d'être venue à l'antenne pour nous parler de ce musée du désert, Tristan d'Albi, qui se trouve au Massouberan, hein, c'est sur la commune de Mialès et dans le Gard, hein, en Occitanie, et qui retrace l'histoire du protestantisme français, hein, c'est ça ?
Voilà.
Tristan d'Albi.
Et la souffrance des protestants qui étaient harcelés par les dragonnades, les armées du roi.
Oui. Tristan d'Albi, ce musée, vous le connaissez ? Vous êtes déjà rendu ?
Je me suis rendu. Il fait partie de la vingtaine de musées locaux.
Oui.
Des protestants qui sont généralement sur des lieux, la tour de Constance où les protestantes ont été enfermées pendant des dizaines d'années et surtout Mialet, mais qui est centré sur les dragonnades dans les Cévennes.
Ouais. Ça fait référence à une période qui est précise hein, pour les protestants, le désert. C'est pas un nom choisi au hasard. Hein.
C'est de la révocation des dites Nantes jusque ça s'est atténué un petit peu sous Louis XVI, mais pas partout. Il y a un certain nombre de témoignages très jolis, par exemple ce qu'on appelle les Bibles de Chignon, qui étaient des toutes petites Bibles de façon que les femmes pouvaient le cacher dans leur chignon en allant au désert. C'est une légende, mais elle est très jolie.
Édouard Delamaze, est-ce que vous référencez, vous aussi, à l'Observatoire du patrimoine religieux des musées
Bien sûr. Et surtout celui du désert, que je connais bien, puisque je suis associé avec le petit-fils, le fils même de Jean Carbonnier, de la famille Carbonnier, qui est une famille protestante et qui vit... au rythme de la conservation de ce musée. Donc c'est très important et on le suit bien sûr et on donne à tous ceux qui peuvent consulter notre site, donc Observatoire du patrimoine religieux, des indications. Et je voudrais revenir sur ce que disait justement votre auditrice à propos de la persécution des protestants. Le simultanéum dont on parlait tout à l'heure n'était pas quelque chose d'agréable hein, fait à l'égard des protestants. C'était une agression contre la communauté protestante qui était obligée de céder le cœur de leurs églises aux catholiques lorsqu'il y avait au moins 7 familles catholiques dans la localité. Vous imaginez ? C'était donc très agressif hein, comme position. Aujourd'hui, on le voit comme un partage. À l'époque, c'était plutôt une expropriation.
Oui.
Vous voyez, il y avait un climat, bien sûr, délétère. Absolument. Et c'est la raison de rappeler, quand on va au musée du désert, on voit ça, c'est très troublant.
Oui, ça nous remet à notre place, hein, comme on dit. Voilà. Francesca nous a rejoint d'Ajaccio au 04 72 38 20 23. Bonjour Francesca.
Oui, bonjour Melchior. J'écoute bien sûr RCF du matin au soir.
C'est gentil.
Tous les matins. Et j'adore vos émissions. Et puis j'aime bien aussi quand on parle de choses qui ne sont pas forcément communes à moi, puisque moi je suis catholique et là on parle de protestantisme. Mais je suis tout à fait d'accord, ce sont des religions tellement proches, je ne comprends pas qu'on ait eu tant de problèmes, alors que mon Dieu, il n'y a pas grand chose qui nous divise, il y a tellement de choses qui nous unissent, et vraiment c'est dommage. Et même dans la religion protestante, après je vous parlerai du temple, je trouve qu'il y a trop de courants. On dit que c'est l'unité dans l'Église protestante, mais je trouve qu'il y a trop de courants et on a besoin de plus d'unité partout. Si déjà les protestants étaient unis entre eux et qu'on fasse un œcuménisme avec le catholicisme, ben ça serait formidable. Parce que moi, j'aime beaucoup écouter les homélies des pasteurs, j'aime beaucoup la Bible, et justement, ça, c'est une critique que je fais un peu à l'Église catholique, qui n'a pas mise dans les mains des fidèles, ou du moins de leur dire de lire la Bible, parce que je trouve que c'est vraiment indispensable. Bon, maintenant, je dirais que...
Francesca compare des religions, je vous charrie bien sûr, mais c'était important de souligner. Vous étiez venu à l'antenne pour nous parler d'un temple d'Ajaccio.
Oui, voilà. Donc je parlais d'un temple à Ajaccio, on appelle ça le temple protestant, moi je l'ai toujours connu sous ce nom. On en a fait depuis des décennies un centre plutôt de conférences et même de centre pour de danse, pour apprendre la danse en fait. Et moi, j'ai trouvé ça toujours dommage parce que j'estime que c'est un temple qui mériterait d'être attribué aux protestants. Nous avons une chapelle aussi, la chapelle protestante. Tout le culte des protestants se fait tous les dimanches à 10h. Mais bon, c'est parce qu'on leur prête. C'est une église, mais on leur prête. Mais enfin, donc... il y a quand même deux points sur Ajaccio, mais ce temple est tellement beau que vraiment, depuis des décennies, il n'a pas bougé d'une pierre. Je le trouve magnifique et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et c'est dommage qu'il ne soit pas attribué au culte, voilà. Au culte protestant, bien entendu.
Eh bien,
ouais. C'est vraiment un très joli, un très bel exemple d'architecture. Et moi, toutes les fois que je passe devant, je me dis, mais pourquoi ce temple? On l'attribue à ces choses laïques et tout à fait des activités qui n'ont rien à voir avec le culte, voilà.
Merci Francesca pour toutes ces précisions au 04 72 38 20 23. Tristan d'Albi, vous voulez réagir?
Oui, sur ce qui a été dit sur le regretter le nombre de courants chez les protestants. Alors là, je suis désolé, c'est inhérent à la foi protestante. Chacun a le droit de penser comme il veut, mais je voulais dire que ces courants, en fait, ne sont qu'apparents. Et qu'il y a une très grande unité du protestantisme, même si c'est divisé en un très grand nombre d'églises et de... Voilà, ça c'est une chose. Je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit Monsieur de Lamaze à propos du mauvais état, du mauvais état des temples.
Je me permets juste de revenir quand même sur ce qu'a dit Francesca à propos de ce centre à Ajaccio. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Tristan d'Albi, sur ces centres qui sont créés où il y a une unification, on va dire, de certaines activités. Non.
Quand j'étais à la Fondation du patrimoine. Et qu'on nous présentait un temple, parce qu'il y avait un fonds spécial pour les temples protestants, la première chose qu'on regardait, c'est on vous le restaure, mais qu'est-ce que vous allez en faire?
Oui. D'accord.
Alors, si ça n'est pas pour le culte, parce qu'il est trop grand ou parce que il faut absolument qu'il ait une utilité sociale, et le plus souvent ça sert de salle de réunion, mais ça permet de sauver le bâtiment.
Oui. Alors,
c'est ça.
Je vous laisse du coup revenir sur ce que disait Edouard Lamaze.
Sur le mauvais état des temples, je voudrais dire quand même que les temples, comme les églises, ont un très gros défaut, c'est qu'ils sont par nature très peu mobiles. Je veux dire par là que les protestants, comme les catholiques d'ailleurs, se sont déplacés au cours des temps et que les bâtiments qui, eux, ne bougent pas, ne sont pas toujours adaptés à la taille. Je connais une petite paroisse dans les Cévennes qui a 3 temples.
Ouais.
Alors que tous les Cévenols sont partis depuis longtemps. C'est ce qui explique qu'on a quelquefois beaucoup de mal à les entretenir parce que ils ne correspondent plus par la taille pour à la population pratiquante.
Édouard Delamaze.
Oui, bien, c'est exactement sur ce sujet que l'Observatoire se penche particulièrement. Encore une fois, nous ne nous sommes pas attachés à la notion de culte. Nous n'avons pas une démarche cultuelle, c'est-à-dire que peu nous importe dans le cadre de l'Observatoire si le culte est exercé ou pas. Ce qui est important, c'est la conservation, l'origine du bâtiment et du respect de sa présentation, du respect de son architecture.
Oui.
Pour les siècles, c'est important. Parce qu'effectivement, M. Dalby le dit avec juste titre, la population va se déplacer. Il ne faut pas croire à ce que disent certains que c'est une religion plutôt qu'une autre qui va prendre le bâtiment, sauf ces exceptions dont on vient parler. Il n'y a pas de chamboulement là-dessus. La population, elle est partie. Mais aujourd'hui, l'Église catholique construit encore des cathédrales dans des lieux où la population se fait déplacer. Donc vous voyez, le problème, il est vraiment culturel. Parce que c'est comme ça que nous le voyons. Si pour répondre très rapidement à l'auditrice, il y a quand même 3% de la population française qui est protestante en France. Ça vient bien sûr par les courants évangélistes. Hein. Il y en avait que 1,5% en 95. Donc, il faut pas. C'est pas le problème. Le problème, j'allais dire, des communautés doit vivre différemment de celui de nos bâtiments parce que justement elles se sont déplacées et ces bâtiments ne sont plus le lieu où là elles ont besoin, il a besoin d'être.
C'est un risque.
Il doit être conservé. Voilà, c'est vraiment la problématique d'aujourd'hui.
Oui. Tristan d'Albi, on vous libère. Je crois que vous devez partir maintenant.
Est-ce que je peux rajouter un dernier mot?
Restez si vous aimez être là.
Il y a aussi d'autres patrimoines protestants. C'est d'une part les cimetières et d'autre part la statuaire. Bon, la statuaire est absolument très mal vue chez les calvinistes. Je ne connais que deux statues, celle de l'amiral de Coligny qui est à l'oratoire, rue de Rivoli.
À Paris.
Et puis à La Rochelle, celle de l'ancien maire Guiton qui a dirigé quand la ville était assiégée par Richelieu. Voilà, c'est très rare. Il y a des cimetières, mais il y a des cimetières privés, c'est une tradition aussi. Mais ils sont également, comme les temples, caractéristiques de leur austérité.
Merci voilà. Tristan d'Albi. C'était un plaisir de vous écouter pendant 50 minutes. Hein. Je rappelle que vous êtes membre du comité du musée protestant. Allez-y hein, sur ce musée, c'est virtuel en plus, vous n'avez même pas besoin de vous y rendre physiquement, mais par contre, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur le protestantisme et le patrimoine protestant, muséeprotestant.org. Merci Tristan d'Albi, on vous souhaite un bon retour. Édouard Delamaze, vous restez avec nous dans cette émission, si ça vous dérange pas, vous êtes le président de l'Observatoire du patrimoine religieux. Marie nous a rejoint au 04 72 38 20 23, bonjour Marie.
Oui, bonjour, merci de me prendre si tard. Ce qui m'a fait démarrer mon témoignage, c'est l'allusion au musée du désert. Parce que il y a, mon Dieu, je vais pas dire, mais dans les années 50, celui qui était notre curé était allé en Ardèche, il avait visité, et ça a été la première chose protestante, si je peux dire, dont j'ai entendu parler. Et plusieurs années plus tard, ce prêtre, il aurait eu 85 ans hier, il est décédé. Je voudrais lui rendre hommage, oui, parce que quelques années plus tard, c'est aussi lui qui m'a accueilli dans un groupe œcuménique, et je suis toujours dans un groupe œcuménique. Je trouve que les choses anciennes nous aident aussi à prendre contact, et il y a quand même dans le catholicisme certains prêtres qui sont très ouverts, et voilà, je voulais dire ça. Et je suis très heureuse de pouvoir être en contact avec je suis catholique, fermement catholique, il était très catholique, très enraciné et vraiment enraciné, mais cette ouverture, et c'est même dans le cadre d'une amitié judéo-chrétienne que j'ai rencontré des protestants qui m'ont fait connaître Marie Durand, voilà. Mais j'ai trouvé que le témoignage de Marie Durand à Ardéchoise était quelque chose d'extraordinaire. Si quelqu'un pouvait en parler, je serais vraiment contente. En tout cas, merci pour cette émission. On a besoin les uns des autres. Ça a été dit, je crois, dans la première heure. On a vraiment besoin les uns des autres.
Eh bien.
Voilà, je bafouille un peu, mais je voulais dire quelque chose parce que ça me touche énormément.
C'était très intéressant. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appelé dans cette émission. Édouard Delamaze, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'Observatoire du patrimoine religieux et ça va nous accompagner jusqu'à la fin de l'émission. Ça existe depuis quelques années quand même, hein?
Depuis 15 ans, oui.
15 ans.
15 ans, nous avons commencé il y a 15 ans et aujourd'hui, nous avons sur les 100 000 édifices en France qui comprennent bien sûr aussi les lieux, genre les sanctuaires, les croix, les calvaires et autres, importants en tout cas, nous sommes même à 120 000. Nous avons recensé aujourd'hui près de 80 000 édifices, toutes religions confondues. Hein.
Donc vous les référencez. Et qu'est-ce que vous faites de toutes ces informations? Est-ce que vous essayez aussi de protéger ces édifices, de communiquer, de conseiller?
Ah oui, vous savez... Encore une fois, on va parler d'autres religions.
C'est oui, bien sûr. Hein.
Je voyais là le grand rabbin de France m'avait saisi sur la situation de la synagogue à Payonne. C'est un peu comme le musée du désert, tout choses confondues, bien sûr, et respectées. C'est-à-dire que ce sont les grands courants du protestantisme d'un côté, les grands courants du judaïsme de l'autre, hein, pour Bayonne. Eh bien, là, la synagogue était en état de péril. Il appartenait à notre génération, à notre société d'aujourd'hui, de préserver cette histoire. Comme pour le musée du désert. Ces lieux sont des lieux de rencontre, à la fois de découverte de la foi, peut-être toujours possible, et puis surtout d'intérêt culturel. Eh bien, nous avons été avec le grand rabbin, l'observatoire, nous avons mis en alerte l'ensemble des autorités, qu'elles soient les autorités de l'État, les autorités régionales, les autorités départementales, communales, pour décrire l'état de ce lieu emblématique. Et aujourd'hui, j'ai vu dernièrement le grand rabbin qui m'a dit « Nous y sommes presque, il ne reste plus qu'un bâtiment sur quatre à restaurer. » Vous voyez ? Oui. Donc l'observatoire mobilise, à travers son observation des lieux, mobilise les autorités et les associations sur la nécessaire intervention. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que ce monument soit entretenu. 1905, ça fait plus de 100 ans. Et en réalité, tant pour l'Église catholique que pour l'Église protestante, aucune solution financière n'a en réalité été trouvée. Que ce soit par les associations ou par les communes, en réalité, aucune affectation obligatoire pour la préservation de ce patrimoine n'a été mise en place en France. Ce qui est très dommage. Oui. Et l'Observatoire, puisque c'est votre question, ne milite notamment pour que quelques centimes d'euros de la taxe de séjour qui est demandée aux touristes puissent revenir comme taxe affectée, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais comme une taxe obligatoire pour les communautés d'entretien de ces lieux. C'est fondamental.
Vous êtes un peu un monsieur patrimoine, non, Édouard Lamaze ?
Exactement. Et d'ailleurs, je suis conseiller régional de Normandie et Hervé Morin, président de la région, m'a nommé patrimoine de Normandie. Je m'occupe de ce patrimoine religieux en Normandie. C'est la même chose. Hein. 20 000 édifices, 10 000 en état de péril.
Et vous êtes toujours le maire de Bois-Héroux ?
Absolument.
Oui, voilà.
Le maire de la commune. Mais les communes qui ont des monuments inscrits ou protégés sont assez bien servis.
Oui.
Parce que malgré tout, les DRAC, l'État subventionne et entretient ce patrimoine. Il faut penser à tout le patrimoine qui n'est pas protégé. C'est lui qui est en péril.
Un mot, Édouard Delamaze, rapide, pour finir l'émission. Pourquoi cet intérêt pour vous, hein, pour le patrimoine ?
Ah, écoutez, c'est une question d'amour.
Ah ben oui, j'imagine.
C'est beau, c'est tellement beau. Vous savez, quand vous rentrez dans une église, quand vous rentrez dans un temple, quand vous rentrez dans une synagogue, alors les mosquées, c'est plus compliqué, parce que les mosquées, elles sont très nombreuses, il y en a de très nombreuses qui se construisent, elles sont plus modernes, bien que la grande mosquée de Paris a été classée en 1912, hein, donc on est classé monument historique, mais c'est rare, hein, elles sont beaucoup plus modernes. Quand vous rentrez dans ces bâtiments, vous voyez bien sûr la force de la religion, la force de la foi,
oui.
Mais vous voyez aussi l'intelligence de l'homme et la créativité de l'homme. C'est ça qui est merveilleux dans ce patrimoine.
Et merci à vous, Édouard Lamaze, de nous avoir accompagné également dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire du patrimoine religieux, à retrouver sur le site patrimoine-religieux.fr. Merci à Pierre-Henri, Pascal, Catherine et Robin qui ont permis la réalisation de cette émission. Grosse équipe, hein, comme à chaque fois. Demain, on va parler des familles, hein, qui se sentent démunies parfois face à leurs enfants. Ils ne savent pas quelles sont les bonnes attitudes à avoir. Heureusement, Apprenti d'Auteuil agit et met en place des programmes pour soutenir les parents. On en parlera demain de 9h à 11h avec Stéphanie Gallet dans Je pense donc j'agis. Passez toutes et tous une très belle journée au soleil ou sous la pluie, mais toujours avec RCF. À demain.